Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Le premier podcast intime sur l'argent.
C'est pas parce que tu viens en prêt sur gage que t'es dans une misère pas possible et que t'es à moins 5000 euros sur ton compte bancaire. C'est juste que t'as besoin de fonds. Et si ça se trouve, ton compte bancaire, il est à plus, mais juste t'as pas envie de taper dedans pour t'acheter une paire de chaussures ou le dernier iPhone, quoi.
C'est dans les romans du 19e, 20e siècle que j'avais vu des personnages qui évoquaient le Mont de Piété, un lieu où ils allaient mettre leurs objets de valeur en dépôt contre de l'argent, du cash. Alors je me suis demandé si ça existait encore. Surprise, non seulement ça existe, mais il y en a dans toutes les grandes villes de France. J'ai voulu en savoir plus, et c'est comme ça que j'ai rencontré Fanny, qui dirige le Crédit Municipal, c'est le nom de cette institution, à Paris. Ça a bien changé par rapport à l'image des souhaits que je m'en faisais, mais surtout, alors que je m'attendais à un truc un peu glauque, en passant la porte, j'ai basculé dans un monde de bisounours. Un service public, parce que c'en est un, qui en plus fait de l'accompagnement budgétaire gratuit. C'est feel good. Et puis, si vous galérez pour boucler votre budget de Noël, par exemple, ça peut donner des idées. Voilà, bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Fanny. Fanny, tu as 45 ans et tu as un métier qui nous intéresse beaucoup, puisque tu diriges le service prêt sur gage du Crédit Municipal de Paris. Alors, on y est là, hein, on est dedans. C'est un magnifique bâtiment, un hôtel particulier, on pourrait presque dire un palais, au cœur du très chic quartier du Marais. Est-ce que tu peux m'expliquer, très rapidement, en quelques phrases, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce que c'est que le prêt sur gage? Et ce que c'est que cet endroit qu'on appelle en argot du début de siècle aussi le clou, mettre ses affaires au clou, ou le monde piété.
Le prêt sur gage, c'est tout simplement le fait de déposer un objet de valeur pour lequel nous allons vous prêter une somme d'argent. Cet objet va servir donc de gage et c'est ce qui va définir la somme d'argent qu'on va vous prêter, l'idée étant que vous puissiez revenir plus tard pour solder votre dette et récupérer votre objet.
Donc par exemple, imaginons... Moi, j'ai besoin de liquidité, là, très vite, tout de suite. J'ai un objet, donne-moi un objet courant qui est déposé...
Une montre, un bracelet, une bague,
une montre,
du vin.
Ok, on va prendre une montre. J'ai une montre, j'imagine qu'elle vaut un peu cher, il faut que l'objet vaille un peu d'argent.
Alors, on commence à 30 euros, en montant de prêt, jusqu'à plusieurs millions. Donc, on peut dire une montre...
Une montre à 50 euros. Mmh. J'arrive, je passe la porte là, qui est 55 rue des Francs-Bourgeois. Mmh. Et je me retrouve dans cet espace qui ressemble un peu à une sorte de très grande poste ou un pôle emploi immense, comme ça, avec plein de guichets. J'arrive, j'ai besoin de quoi ?
D'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité en cours de validité et de l'objet. C'est tout.
C'est tout. Pas de facture de l'objet ?
Pas forcément.
Pas forcément. Alors j'arrive, j'ai remarqué que je vais peut-être faire la queue, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens. Hein.
Alors il y a beaucoup de gens, on reçoit à peu près 500 personnes par jour sur site, qui vont faire des opérations qui sont différentes. Donc soit déposer, soit venir chercher, soit renouveler le contrat pour une nouvelle année. Donc si tu viens déposer, on va vérifier tes documents, et puis effectivement tu vas faire la queue pour qu'on puisse savoir qui tu es, prendre tes coordonnées, et puis vérifier qu'on prend l'objet et l'estimer. Donc tout ça, ça va prendre un peu moins d'une heure.
Un peu moins d'une heure ?
Oui.
En heure de pointe même ?
Oui, on est sur l'heure en heure de pointe, et un petit peu moins, on est à 40-45 minutes sur une heure un peu plus creuse.
Ouais, faut pas être trop pressé quand même. Hein.
C'est moins long qu'une banque.
Les gens qui viennent ici, les gens que j'ai vus là, c'est des gens qui ont urgemment besoin d'argent, c'est des gens qui sont dans la dèche.
C'est tout le monde. C'est la voisine de palier qui n'a pas de quoi payer ce mois-ci la cantine des enfants, mais c'est aussi le chef d'entreprise qui veut se lancer sur un nouveau business et va mettre de ses fonds propres, donc de ses objets propres, en gage pour pouvoir financer un nouveau projet. Donc on a vraiment autant de personnes que de projets différents et on va sur effectivement de quoi se payer à manger, ça arrive encore aujourd'hui, mais aussi s'acheter une voiture, faire des travaux dans sa maison ou tout simplement subventionner une nouvelle montre parce qu'on en a très très envie et qu'on se dit qu'on va déposer l'ancienne en gage pour pouvoir s'acheter la nouvelle.
Donc moi j'ai ma petite montre à 50 euros, j'ai mon justificatif de domicile, j'ai ma pièce d'identité, j'ai fait la queue. Comment vous estimez ma montre ?
Il y a une étude de commissaire-priseur, donc c'est le métier qui travaille pour nous, nous sommes sous marché public sur cette activité, donc qui, par rapport à l'estimation sur le marché de la vente aux enchères, va pouvoir déterminer justement la valeur de la montre. Et c'est cette valeur-là qui va déterminer le montant du prêt, puisque de cette valeur, donc on va dire 50 euros justement, nous, on va prêter entre 50 et 70% de cette valeur-là. Donc pour ta montre estimée 50 euros, on va te prêter entre
35 euros, quoi. Ouais. Ça peut être une montre, ça peut être, tu disais, du vin, ça peut être des tableaux, ça peut être des bijoux.
Oui.
Donc il y a des gens ici qui savent estimer n'importe quoi quasiment.
Oui. Alors qu'ils savent se documenter aussi et aller chercher l'information.
Ah, ça peut prendre du temps. L'estimation ne se fait pas forcément immédiatement.
Alors 90% des estimations se font en 10 minutes. Donc c'est leur...
C'est leur job,
c'est leur job, ils font ça. Alors on a beaucoup de dépôts de bijoux, on a beaucoup d'or, donc c'est ce qui est finalement le plus facile à estimer, parce qu'on a un cours de l'or qu'on suit, et on va prêter en fonction du gramme d'or. Mais ensuite, sur les objets un peu plus atypiques, ou sur les bijoux, qui seront des bijoux signés, ou qui sortent un peu de l'ordinaire, ou avec beaucoup de pierres, bon, là on va avoir une estimation qui sera un peu plus poussée. On peut aller jusqu'à une estimation qui est faite par un autre expert que ceux que nous avons sur place, et dans ces cas-là, c'est maximum 48 heures. Sur des vins très particuliers, typiquement, on va faire venir un expert en vin. Sur de la très belle maroquinerie, on va faire venir notre expert maroquinier aussi pour vérifier son authenticité, et puis pour établir une estimation.
Ah oui, il y a quand même des faux. Oui. Tu peux tomber sur des faux.
Oui, ça nous arrive.
Ouais.
Mais on les voit. Il y a des très beaux faux, c'est très très rare. Le plus souvent, les points de contrefaçon sont très faciles à remarquer.
Alors, on va un peu s'arrêter sur ce passage-là. Mettons que moi, voilà, je suis sûre que ma montre, elle vaut 100 euros. Et puis, évidemment, le type spécialisé des montres, il dit « Ah bah non, elle vaut 50 euros, madame, et du coup, vous n'aurez que 25 euros. » Ça doit arriver hyper souvent. Que les clients soient pas contents ou chouinent ou disent que ça vaut plus, non ?
La première barrière à passer est la barrière psychologique de « j'ai acheté mon objet tant, pour moi il vaut tant ». Sauf que on sait très bien que le marché de l'occasion, c'est pas le marché du neuf. Donc déjà, il faut réussir à faire comprendre ça, ce que les personnes comprennent très bien. Et après, il y a le sujet de la vente aux enchères. Effectivement, c'est la loi de l'offre et la demande, hein, sur la vente.
Parce que l'objet, à la fin, il pourra éventuellement, on va finir de décrire le processus, mais il pourra éventuellement terminer dans une vente aux enchères.
Oui.
Ça, c'est le principe.
Oui.
Mais donc, ouais, il y a une dépréciation du bien par le fait qu'il est d'occasion et qu'il sera vendu à la fin. Mais t'as quand même beaucoup de conflits, non ? Est-ce que tu dirais que c'est quotidien ?
Il y a plus un étonnement pour les nouveaux clients. Quand le client arrive et qu'il est nouveau client, on l'accompagne dans l'orientation dans la salle.
Il y a plein de guichets. Il y a le guichet pour se présenter, il y a le guichet pour mettre ses trucs en gage, il y a le guichet pour récupérer son argent, il y a des grosses flèches par terre.
Oui. Alors, on a essayé de faire un parcours client qui soit le plus clair possible avec effectivement des fléchages, des zones de couleurs pour rendre ça aussi un peu plus gai.
Pourquoi 50 à 70% ? Pourquoi des fois c'est 50 et des fois c'est 70% ?
Ça dépend de la catégorie de l'objet. Il y a des choses qui se revendent très bien et plus facilement et des choses un petit peu moins facilement. Une photographie, par exemple, c'est un bien sur lequel on ne va pas forcément mettre ce qu'on appelle une majoration sur le prêt. On ne va pas forcément prêter plus que 50% parce que ce n'est pas forcément facile à revendre. C'est un peu, faut trouver des gens qui veulent acheter une photographie et qui veulent acheter cette photographie-là.
Alors bon, moi j'ai mis ma montre en gage et là on me donne 25 euros. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est-à-dire que ma montre, elle va rester chez vous ?
Oui, on va la mettre dans une boîte, sous-scellée, et elle part dans ce qu'on appelle les magasins, qui sont des espaces de conservation. Donc elle va aller dans le magasin des bijoux, parce que c'est là où est sa place chez nous, et elle va y rester tout le temps du prêt.
Le prêt, il peut durer très longtemps ?
Le prêt de base dure 12 mois. Maintenant, tu peux le renouveler tous les ans. Tous les ans, tu scelles avec nous un nouveau contrat pour que le prêt, le bien reste chez nous. Il suffit juste de payer les intérêts.
Alors voilà, tu payes les intérêts. À combien ils s'élèvent, les intérêts?
Ça dépend du montant qu'on t'a prêté.
Prenons une somme fixe, hein, on m'a prêté 100 euros.
Oui, on est à 4,25 d'intérêt.
Et si j'ai mis un truc à 1000 euros?
Alors, sur un 1000 euros, on est à 5,30.
Donc, ça augmente en fonction de la valeur
Ça augmente pas forcément de façon linéaire.
Ok.
On a des taux qui sont différents en fonction de la tranche de prêt. La tranche intermédiaire, le montant des intérêts est plus important.
Et si j'ai pas l'argent, à ce moment-là, mon bien, il est mis aux enchères. Alors, si j'ai pas l'argent ou si je veux pas récupérer mon objet.
Oui, il y a plusieurs possibilités en fait. À la fin du contrat, à la fin de tes 12 mois, tu peux déjà avoir décidé de vendre ton objet. Bah, la montre, c'est ton ex qui te l'a offerte et puis voilà. Tu veux t'en séparer, essayer d'avoir un petit pécule derrière. Donc tu peux toi-même décider de la mettre aux enchères. Tu peux donc aussi décider de renouveler ton prêt pour une nouvelle année ou récupérer ton bien en soldant le prêt et les intérêts. Au terme de ton année de prêt, on va t'informer, voilà, le prêt arrive à échéance, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir savoir ce que toi tu souhaites faire. Si tu ne donnes pas de nouvelles, oui, à un moment, ton bien passe en vente.
Et le truc intéressant, c'est que s'il est vendu plus que ce qu'il a été estimé, là je reçois un petit chèque du crédit municipal.
Tout à fait.
Donc, en fait, ce que je comprends, c'est qu'ici, il y a vraiment toutes sortes de gens qui passent. La porte de cet endroit. La première question, évidemment, qui me vient à l'esprit, c'est pas parfois un peu déprimant pour les gens qui sont là au guichet? Enfin, t'as quand même, j'imagine, des situations de fragilité financière qui doivent être assez fréquentes.
Alors, on voit passer tellement de personnes, justement, avec tellement de projets différents que, j'ai envie de dire, on va pas forcément se souvenir de la personne qui était dans une plus grande difficulté. Ce qui est aussi notable chez nous, c'est que la personne qui est en difficulté, qui va nous faire part, parce que c'est un morceau d'intimité, finalement, on nous confie quelque chose.
Les gens parlent beaucoup quand ils confient leur objet?
Oui. Beaucoup, beaucoup.
Il n'y a pas d'objet sans histoire?
Non. Ils ont tous leur petite histoire derrière, ils nous expliquent d'où ils viennent, ils nous expliquent pourquoi ils les déposent, enfin, ça vient assez naturellement. Et on va réfléchir avec eux, est-ce qu'on fait un seul contrat, est-ce qu'on met tous les objets dans un seul contrat, est-ce qu'on fait plusieurs contrats, comme ça vous pouvez récupérer un contrat après l'autre, ça sera plus facile. On les dirige aussi vers nos collègues de l'accompagnement budgétaire pour les aider à faire des demandes de fonds de soutien, par exemple.
C'est ça, vous avez un côté social, vous avez un volet social avec de l'aide au surendettement et de l'accompagnement budgétaire.
Complètement, et c'est une aide qu'on propose qui est entièrement gratuite pour les franciliens, donc il faut la proposer, c'est important, et on essaie de détecter les clients que ça pourrait intéresser, parce que justement, ça, c'est bien de prêter tout de suite, hein. C'est l'avantage, notre prêt il est simple, il est rapide, très bien, mais le but c'est aussi de les aider dans la durée.
Et comment les gens ils sont au courant que vous existez ?
Quoi ? Tout le monde ne nous connaît pas.
Mais non, mais le monde qui sait, moi je connaissais dans la littérature, tu vois, dans la littérature un peu du 19e siècle. Mmh. Mais je me suis posé la question de savoir si ça existait encore déjà avant de... Et puis j'ai découvert que c'est une organisation un peu par agglomération. Mmh. Vous dépendez de la ville de Paris, là on est au Crédit Municipal de Paris. Il y en a d'autres dans quelques autres grandes villes.
On a une trentaine en France, oui.
Et c'est un service public.
C'est un service public.
C'est un service public. Voilà.
On a une vocation de service public exclusivement et d'établissement financier. Donc on a un peu les deux casquettes.
Et c'est quoi l'intérêt par rapport à une banque?
À part notre extrême gentillesse et notre disponibilité.
À part que t'as l'air sympa. Non mais je veux dire sur les taux.
Sur les taux, on va être beaucoup plus bas que des taux sur des organismes de crédit à la consommation, par exemple, ou les frais de découvert bancaire. Et puis surtout, voilà, tu viens le matin et tu repars avec les sous une heure après, en cash jusqu'à 3000 euros. Et ensuite, par chèque ou par virement. Les fonds sont versés immédiatement. Donc, il n'y a pas de délai, on ne va pas vérifier tes comptes, tes revenus. Donc, finalement, les démarches, elles sont simples, elles sont rapides, elles sont ouvertes à tout le monde, donc y compris, je pense, aux retraités qui n'ont plus accès au crédit, ou aux étudiants à qui certaines banques ne font pas forcément encore confiance. Voilà, on va être ouvert à tout le monde, là où les banques vont être un peu plus restrictives.
Et comment tu vois, toi, toutes les boutiques qui proposent de racheter de l'or ou les cash converteurs qui s'étaient répandus beaucoup il y a quelques années, tous ces trucs alternatifs privés.
Pourquoi pas, à partir du moment où on veut se séparer de l'objet qu'on a entre les mains. L'idée du pressurgage, c'est vraiment de récupérer.
Les gens veulent souvent récupérer leurs trucs.
Oui, on est à plus de 92% des gens qui récupèrent leur contrat. Finalement, c'est un moyen de trésorerie qui est sur du court ou du moyen terme, parce que je veux récupérer ensuite et venir, j'attends mon 13e mois, j'attends... Ça devient un mode de financement, finalement.
J'ai cru comprendre qu'il y avait 80% de ta clientèle qui étaient des femmes.
Oui.
Ça, c'est dingue, non?
Je pense que ça venait surtout du fait que les femmes ont toujours su se débrouiller et trouver des solutions. Et que, historiquement, c'était certainement notre public majoritaire.
Les femmes n'avaient pas de compte en banque avant.
Déjà.
Donc déjà, bon, jadis naguère.
Et néanmoins, aujourd'hui, on a encore une population majoritairement féminine, même si on voit de plus en plus d'hommes venir. Mais c'est encore, effectivement, je pense, plutôt féminin, parce que c'est une habitude qu'on porte, nous, les femmes.
Et donc, c'est des femmes. La plupart des trucs qu'on vous donne, c'est des bijoux.
Oui.
Ça, c'est un énorme pourcentage.
90% à peu près.
Ah ouais, quand même. Donc, vraiment... Donc, il y a pas mal de gens âgés, tu me disais ?
On est sur la population moyenne, enfin notre plus grande tranche de clients, elle est entre 45 et 60.
Et il y a des communautés d'immigration apparemment qui sont surreprésentées.
Oui, par rapport à ce qu'elles représentent dans la population française, ouais. Et on a une forte représentation de la population sri-lankaise, ouais.
C'est quand même curieux.
Bah, on est sur une communauté qui a une forte culture de l'or. Des bijoux.
C'est souvent des bijoux que les gens ont reçus en cadeau ou,
oui, cadeau de naissance, cadeau tout au long de leur vie,
cadeau de mariage. Ouais.
Typiquement, dans la communauté sri-lankaise, les colliers de mariage sont des très gros colliers, très lourds, donc ça représente tout de suite un certain montant en termes de prêts.
Mais là, c'est plutôt des trucs que les gens veulent effectivement récupérer, j'imagine.
Oui, complètement. Ouais. Et ils s'en servent beaucoup pour, justement, c'est un peu les projets de la vie, pour le mariage, pour le baptême, pour acheter le premier appartement, pour ouvrir le commerce. Enfin, voilà,
donc c'est de la facilité de financement.
Complètement, et c'est rentré, je pense qu'il y a quelque chose qui circule, comme quoi
le mot est passé.
On est là, et on va leur prêter de l'argent sur ce fameux collier de mariage.
Il y a des trucs qu'on t'a filé en gage qui t'ont vraiment étonné?
Oui, tous les jours.
Exemple.
Tous les jours, parfois on se retrouve ou des tableaux, on se dit d'accord, des gens ont décidé d'acheter ça un jour, c'est pourquoi
pas. Ah, des
gens,
des croûtes pas possible, des trucs.
Oui, des thèmes particuliers, voilà, après des très beaux vêtements, on voit aussi passer des très belles œuvres de grands peintres qui sont, voilà, parfois on a l'impression de travailler dans un musée vivant.
Ah oui, parce qu'il faut conserver tout ça.
Oui.
Donc il y a un espace monstrueux avec des conditions de conservation
adaptées à chaque typologie d'objets. Donc nos magasiniers, on a une régisseuse des œuvres qui s'occupe aussi de vérifier que nous avons la bonne température, la bonne hygrométrie, qui fait ni trop chaud, ni trop froid, ni trop soleil, ni pas assez.
On n'a jamais essayé de vous braquer ?
Non, il vaut mieux pas. Vaut mieux pas.
Le cambriolage...
Ah bah déjà, faudrait des très très gros camions parce qu'on a quand même beaucoup de surface et beaucoup de choses en stock. On a plus d'un million d'objets en stock.
Et après, il y a les ventes aux enchères.
Oui.
Alors là, c'est un autre public.
Là, c'est pareil. C'est monsieur et madame tout le monde.
Ah ouais, tu dirais pas que c'est... Parce que c'est quand même, j'imagine, des objets plutôt de luxe que vous...
Pas forcément. C'est
ah
vraiment,
oui, non, il y a ma montre à 50 euros.
Oui. Ouais. C'est les objets qu'on nous gage. Donc ça peut être des vélos, des guitares. On fait des ventes exceptionnelles sur des produits qui peuvent être des produits de luxe ou des grands vins. Mais on fait aussi des ventes de bijoux qui sont des bijoux plus classiques.
Et pour de vrai, il y a des gens qui s'enflamment sur des...
Qui tombent amoureux, on va dire.
Ouais, le coup de cœur.
Oui, oui, ça arrive. Alors, les gens sont quand même assez mesurés, mais ça arrive de complètement avoir un lot. Bah, ça a été le cas lors d'une dernière vente avec un sac Kelly Hermès qui s'est envolé. Les gens vont complètement fondre sur un lot qui va être particulièrement apprécié et ça va s'envoler, oui.
Et vous faites pas de marge dessus. Donc, il s'est envolé et la personne qui l'a mise en vente a récupéré les sous qui étaient
oui.
en plus.
Oui.
Et t'as vu des objets que les gens voulaient vraiment pas récupérer ou
Genre des pianos qui pèsent une tonne et que les gens se disent « Ah, ça vaut peut-être pas le coup d'engager des ménageurs !»
Ah oui, les pianos, c'est chiant.
Oui.
Il paraît qu'il y a un piano qui est resté d'ailleurs super longtemps au clou.
Il est toujours là.
Ça fait combien de temps qu'il est là ?
Ça va faire 50 ans.
Donc le propriétaire est toujours en vie ?
Ses héritiers sont toujours
en vie. Ses héritiers. Mmh. Et les intérêts sont toujours payés ?
Jusque-là, oui.
Et le piano est toujours là ?
Je pense qu'il restera là.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est vraiment le se dire que votre grand-mère avait un piano chez elle, et puis forcément, est-ce que moi je veux récupérer un piano ? Est-ce que ce piano-là, puis je ne sais même pas forcément ce que c'est, donc...
Ils sont jamais venus le voir ?
Non, ils peuvent pas le voir de toute façon, il faut qu'ils le récupèrent.
Ah, tu peux plus
je
voir...
Je peux prendre des photos, ouais. pour les héritiers, on peut prendre des photos, mais non, ils peuvent pas le voir, il faut qu'ils le récupèrent.
Ils préfèrent payer de l'argent pour ne pas que l'objet parte de la famille.
Mais pas le récupérer non plus.
Et pas le récupérer non plus.
Non, pas forcément la place.
C'est comme un garde-meuble.
Oh non, c'est moins cher qu'un garde-meuble.
C'est moins cher qu'un garde-meuble, ouais. Ah ouais.
Et puis, un garde-meuble ne vous garantit pas qu'il y aura la bonne température, qu'il sera à l'abri du froid ou du chaud.
Alors, vous avez reçu un César.
Pour l'ensemble de ma carrière, oui.
T'as reçu un César en gage, sérieusement.
Oui. Ouais. J'ai reçu un César en gage, oui. C'est un César d'un acteur qui nous l'avait déposé pour faire un petit appel de trésorerie. Oui.
C'est cher, un César ?
Ça dépend celui de qui.
Ah oui, parce qu'il y a le nom.
Ben oui, si on devait le revendre sur le marché de la vente aux enchères, si c'est celui de Catherine Deneuve, on aura certainement plus de fans que celui d'un obscur nom que tout le monde a peut-être potentiellement oublié.
Et là, celui-là, vous l'avez revendu ?
Non, il l'a récupéré.
Il y a d'autres objets comme ça, très étonnants que...
Après, on va avoir des objets un peu atypiques ou exceptionnels... des céramiques de certains grands maîtres qui n'en ont fait que 3,5, enfin voilà, ce genre de choses.
Tu vois arriver de temps en temps des gens avec des grosses valises.
Oui. Et c'est pas forcément mes préférés parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dans la valise, mais c'est un peu la pochette surprise. Quoi.
Ouais.
Et des fois, on a des super belles surprises. Et on ouvre la valise, on fait « Waouh, ça
Noël.
Brille !»
Ouais, ouais. Et il y a des choses que tu peux pas accepter, il y a des choses que tu...
Oui, il y a des choses qu'on ne prend pas.
Est-ce que, par exemple, si elle soupçon que le truc soit tombé du camion, comme on dit, ou qu'il ait été volé, vous pouvez le refuser ?
Ah oui, complètement. Il y a des objets pour lesquels on demande systématiquement des factures. La maroquinerie,
voilà,
par exemple.
J'allais te dire, tu me dis on demande un justificatif de domicile et... Et une pièce d'identité, et c'est tout, ça fait quand même...
Non, sur la maroquinerie, sur les sacs, sur les portefeuilles, on va forcément demander une facture. Après, il y a aussi cette relation avec le client qui fait qu'il nous parle beaucoup, et un client qui nous dit rien, ça éveille les petites antennes qui nous disent « c'est bizarre, pourquoi il nous dit rien ?» Alors à nous de creuser, est-ce qu'il est timide ou est-ce que juste c'est pas lui en fait et du coup il est pas à l'aise pour nous en parler ?
Et oui, parce que si ça se trouve, effectivement, il l'a volé soit à son entourage, soit tout court, t'as quand même ce risque, quoi.
Il y a ce risque, il est très faible, on n'est pas le bon endroit pour faire du recel du tout. Si demain tu devais dérober quelque chose... Pourquoi ne pas le vendre ? Pourquoi le déposer en gage, quoi ? Pourquoi t'embêter à donner ton identité, ton justificatif de domicile, passer 45 minutes en salle, donner des détails alors que tu pourrais l'écouler, entre guillemets, d'une façon différente ? Nous, on a vraiment, finalement, pas du tout ce sujet-là.
Il y a des saisons ?
Oui.
C'est quoi les saisons ?
Le mois de mai, juin, juillet, les vacances, les mariages... Et c'est surtout aussi la période des déménagements. On commence aussi à faire les prévisions pour les écoles, pour les enfants, donc il faut prévoir les fonds. Et puis on a la fin d'année aussi, qui est une période assez haute d'activité.
Noël, faut payer les cadeaux de Noël.
C'est ça.
Ouais, donc on met un truc au clou et puis on attend...
Et puis on attend le 13e mois pour revenir récupérer un mois et demi après. Parce qu'on peut récupérer son bien quand on veut.
Ouais,
on n'est pas obligé de le laisser pendant un an.
On n'a pas payé trop d'intérêt, quoi.
Exactement.
Oui, ce que je comprends, c'est que c'est pas forcément de la nécessité absolue.
Non.
C'est pas ça, en fait.
C'est
ce que j'imaginais.
Ouais. C'est même plutôt rare. Notre prêt moyen, il est à 1400 euros.
C'est beaucoup, 1400 euros.
Et 1400 euros pour manger. Enfin, vous déposez pas, vous faites pas un prêt de 1400 euros pour manger. On est plus sur la machine à laver à claquer ce matin. Je vais aller chez Darty, j'ai pas les fonds, je viens déposer des bijoux et puis je repars avec mes fonds et je vais aller chercher ma machine à laver.
Alors, juste petit point historique, Donc cette institution existe depuis 1637.
Oui, tout à fait.
Fondée par un bienfaiteur, Théophraste Renaudot. C'était un philanthrope, comme on dit.
Oui, un peu journaliste.
Médecin de Louis XIII, mais un peu journaliste aussi, ouais. Et ça s'est vraiment envolé, j'ai l'impression, au 19e siècle. Il y a des jolis petits documents qu'on peut voir sur YouTube à propos du crédit municipal où on voit qu'à un moment, au 19e, alors il y avait énormément de matelas.
Oui.
On a arrêté. C'était quand même pas les gens les plus riches hein, qui filaient leurs matelas.
Non. Mais c'est justement la littérature française du 19e ou début du 20e. C'est effectivement des périodes. Enfin, le monde piété. Pour reprendre l'ancien nom, a été créé pour lutter contre les usuriers. C'était vraiment un moment où les gens avaient besoin d'argent. Et il fallait lutter contre ceux qui, justement, faisaient payer 3, 4, 5, 6, 10 fois le prix de ce qu'ils avaient prêté. Ça a été fondé, c'était public, et ça a été vraiment une façon de lutter contre la pauvreté en permettant à tout un chacun de déposer quelque chose en gage.
Mais aujourd'hui, on peut plus être prêteur sur gage. C'est possible ? On peut faire ça encore, usurier, prêteur sur gage ? À part vous, on peut pas le faire ?
Non.
Mais c'est ça, c'est interdit. On peut le faire éventuellement clandestinement.
On peut être banquier, quoi.
Il y avait donc des matelas, plein, des bicyclettes. On se rend compte qu'au 19e... Les gens roulaient énormément à vélo, ça a été une vraie libération de la circulation.
Ça revient, du coup.
Ça revient ?
Ça ouais. Revient, on nous redépose des vélos. Mais maintenant, on nous dépose des vélos électriques.
Et des voitures de collection. Vous avez encore un garage à voitures de collection ?
Non, on ne sait plus les voitures de collection.
C'est fini. Alors, jadis naguère, apparemment, il y avait une facilité pour les gens très nantis, ou de la haute, comme on dit, pour rentrer discrètement et ne pas passer par la pièce du prêt sur gage et aller directement dans le bureau de la direction. Ça existe encore ?
Non. Je ne reçois pas les nantis de Paris. Non, on est un service public, donc on reçoit tout le monde en salle de prêt sur gage. Après, il y a possibilité...
Si par exemple un people, quelqu'un de connu, veut venir ici, il n'a peut-être pas envie de signer 40 autographes ou de se faire prendre 10 000 francs en selfie.
Alors on en a.
Il y a des gens connus. Ah ouais.
On a des gens connus. Après vous pouvez passer par ce qu'on appelle l'expertise et donc vous pouvez nous déclarer avoir des biens à déposer et prendre un rendez-vous avec l'expertise qui peut donner lieu à un prêt sur gage.
Donc tu contournes un peu le système.
Mais c'est surtout pour des objets de très grande valeur ou de très gros volumes. On n'a pas forcément envie de se balader avec un rembrandt sous bras.
Mais tu dois te marrer de ouf en fait, parce que t'as des people, t'as des objets farfelus, t'as des histoires à tous les étages.
Les journées se ressemblent jamais. On va le matin être prisé des objets absolument incroyables. Je pense à une cliente qui nous avait déposé deux valises de robes absolument somptueuses de très grands couturiers où on avait l'impression d'ouvrir presque le dressing de Barbie. Enfin, c'était absolument magique. Et puis après, l'après-midi, je vais passer une heure avec une cliente qui est dans une très grande difficulté et à qui je ne peux pas faire de prêt parce que malheureusement, la bague qu'elle nous a apportée, elle pensait que c'était une bague en or que son mari lui avait offert. Ben non, c'est du toc, donc on ne peut pas lui faire un prêt. Et à chercher une solution avec elle et avec les collègues de l'accompagnement budgétaire pour essayer de trouver une façon de pouvoir l'aider et financer un projet qu'elle a. On fait le grand écart entre les clients, entre ce qu'ils déposent. Et si tu interroges les collaborateurs ici, ils te diront tous « Moi, je suis là parce que ça a un sens. » Ça a un sens et si... je rentre chez moi en me disant « Ok, j'ai aidé des gens. J'ai concrètement aidé des gens. » Et ils restent avec nous pendant des années, des dizaines d'années, depuis super longtemps parce qu'ils y trouvent quelque chose. Non. Quand les gens viennent, ils ne repartent jamais.
C'est vrai ?
Ouais. Alors que j'ai des collaborateurs qui viennent de super loin, qui pourraient très bien, parce qu'en tant que fonctionnaire, ils pourraient très bien travailler juste à côté de chez eux ou dans une administration. Non, ils restent chez nous parce qu'il y a une vraie utilité et ça, tous les boulots ne te le proposent pas, quoi.
Est-ce que la personne qui estime, elle n'a pas une petite marge quand même ?
D'estimation ?
Bah ouais.
De négo ?
Bah ouais.
Non, elle va estimer au plus juste. Elle va vraiment estimer au plus juste.
Quand tu dis au plus juste, c'est au plus haut ou c'est
au plus haut.
Ouais.
Au plus haut pour le client. Après, notre rôle à nous aussi, c'est de faire le bon montant de prêt à la bonne personne. si tu as besoin de 500 euros et que ce que tu m'as déposé, je pourrais t'en prêter 700, ça ne sert à rien de te donner 700, autant te donner 500, enfin, ce dont tu as besoin.
Ah, parce que t'as des intérêts, t'as plus d'intérêts à rembourser.
T'as plus d'intérêts, tu mettras peut-être plus de temps à venir récupérer ton contrat à 700 euros que ton contrat à 500. Donc, il y a une relation avec le client qui est aussi dans la compréhension de ce dont il a besoin.
Tu dirais que les mecs et les nanas réagissent différemment ?
Je suis pas sûre qu'ils réagissent vraiment différemment, mais ils ont une attitude différente. Les mecs seront quand même beaucoup plus sur d'eux quand on leur dit l'estimation ou le prêt. Non, mais je vous assure, je l'ai acheté plus cher et tout. Oui, mais je vous explique. Alors que les femmes vont dire d'accord, très bien. Et du coup, vous pouvez me donner combien ? Un peu plus. Et voilà, elles voient plus aussi quand on discute avec elles, elles sont plus sur du long terme et elles réfléchissent aussi beaucoup plus à comment je vais faire pour rembourser parce que je veux récupérer. Les hommes, un peu moins.
Alors, il y a eu plusieurs fois un phénomène, autant jadis, le roi, à l'époque, le roi, offrait à la population le fait de rendre tous les objets du monde piété. Alors, on n'a plus de roi.
Non.
Bon, ici, aujourd'hui, il y a une mère. Est-ce que ce genre de geste de grâce pour rendre les objets à leur propriétaire, ça existe encore ?
Ça existe encore. La dernière date de 2020-2021, où on a restitué à tous les clients qui avaient engagé avant 2000 leurs objets.
Ah, donc il faut quand même l'avoir laissé pendant 20 ans.
Oui. Après, on avait une restitution précédente qui était tous les contrats de moins de 100 euros, si je me souviens bien.
Il y a des gens qui travaillent au Crédit Municipal de Paris qui ont déjà mis des trucs en gage au Crédit Municipal de Paris.
Oui.
C'est vrai ?
Oui. On a le droit d'utiliser nos propres services.
Donc ça vous arrive à vous aussi de vous retrouver un peu dans la dèche ?
Ça arrive d'organiser un mariage ou d'organiser des fêtes ou même d'avoir besoin d'un
petit financement.
Je regrette de ne pas avoir connu, moi, ce service étant plus jeune.
Quand tu avais des problèmes éventuellement...
Oui. Quand j'étais étudiante et que j'avais pas de quoi boucler mes fins de mois au Crous, j'aurais été contente de pouvoir, de temps en temps, pouvoir déposer les peu de bijoux que j'avais à l'époque et d'avoir cette solution-là plutôt que de faire des crédits à la consommation.
Et c'est quelle proportion de gens qui viennent ici qui se retrouvent à éventuellement se faire proposer une aide à la gestion de budget, au surendettement ?
On est très... très transparent, très décomplexé de ce service-là. Après, le proposer en direct, ça va dépendre de ce que le client nous dit et comment il nous le dit.
C'est pas du tout une démarche agréable d'avoir besoin d'aide.
Il faut déjà le reconnaître. Il faut déjà se dire. Alors après, un client qui vient trois fois en trois mois et qui à chaque fois nous dit que c'est pour combler son découvert, on va pouvoir lui dire ce mois-ci, vous venez à nouveau concernant votre découvert bancaire. Est-ce que mes collègues vous avaient parlé de l'accompagnement budgétaire la dernière fois et on voit comment le client répond. On ne veut pas être intrusif.
Quand tu me dis le client vient pour la troisième fois à cause de son découvert, les gens racontent toujours leur histoire.
Alors, je suis obligée de demander la destination des fonds.
Ah bon ?
On a quelques zones de réglementation et la destination des fonds, c'est une obligation.
Mais tu peux pas la vérifier, c'est-à-dire que si en fait.
C'est déclaratif.
Oui, voilà. Mmh. Si je vais tout claquer au bistrot au lieu de combler mon découvert,
tu ne sauras
rien. Ouais, mais... Et donc, oui, il te parle quand même. Enfin, y a quand même c'est comme ça que tu recueilles des indices qui peuvent.
Oui, comme ça. Et puis, entre donc, ce qu'ils vont déclarer, ce qu'ils déposent, est-ce qu'ils viennent souvent. On a des documents qui passent entre nos mains, comme les quittances de loyer, par exemple, pour le justificatif de domicile. Donc, est-ce qu'il y a une dette de loyer ? Enfin, on va avoir comme ça quelques indices qui peuvent nous permettre de proposer aux clients. Après, il faut, et on fait appel à toute l'habileté de nos agents, le faire en douceur et effectivement, pas lui dire « Bah alors, on a des problèmes d'argent, on galère un peu, bah voilà, il y a l'accompagnement budgétaire, ils vont te sauver la vie. » Le but, c'est pas ça. Et c'est vraiment de proposer au client un accompagnement qui est là pour le rendre autonome. C'est pas déjà, on ne lui vend rien parce que c'est gratuit, mais par contre, ça va lui prendre un peu de temps.
Et tu dirais que c'est une grande proportion des gens qui passent ici ?
On doit le proposer à une quarantaine de personnes par semaine. Donc finalement, sur nos 500 par jour, pas trop.
Et des gens très, 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 très riches, il y en a aussi ?
Oui, et à qui on propose aussi l'accompagnement budgétaire, parce que ce n'est pas parce que vous gagnez 15 000 euros par mois que vous savez gérer votre argent. Et le fait de ne pas dépenser plus que ce que je gagne, ce n'est pas un truc que tout le monde a bien en tête.
Ah, c'est dingue ça ! Il y a des gens qui ont plein de fric et qui ont des dépenses qui excèdent leurs revenus.
Complètement, et qui s'en fichent d'avoir un découvert bancaire, c'est pas grave, ils peuvent le payer derrière. Oui, mais ça coûte un fric monstre, là où vous pourriez ne pas faire ça et ne pas avoir besoin du coup de faire un prêt sur gage derrière.
Alors, grande question, toi qui es confronté, qui a vraiment les mains dedans là, est-ce que tu dirais qu'il y a un profil des ce qu'on appelle les débiteurs chroniques, les gens qui ont l'argent qui leur file entre les doigts?
On a des clients, on se rend compte, vont acheter un sac. En ce moment, c'est plutôt ça. Qui vont s'acheter un sac à crédit, en crédit conso, en 10 fois, et qui vont payer des intérêts monstrueux sur ce sac, et qui n'ont même pas fini de le payer, et qui vont venir le déposer chez nous. Et du coup, ça nous interroge sur la façon dont la personne peut gérer ses fonds. Alors, on a quand même une devoir de neutralité et de bienveillance. Moi, je ne suis pas là pour juger ce que le client fait avec son argent. Ça ne me regarde pas. Je dois lui demander à quoi va servir les fonds que je lui prête, mais pas, je ne rentre pas dans ses finances privées.
Attends, juste une question sur cette justification. Si effectivement le client te dit « je vais aller faire du shopping immédiatement en sortant d'ici », t'as rien à dire?
Non.
Tu demandes, mais c'est purement...
Déclaratif. Je dois juste savoir à quoi vont servir les fonds. Des clientes viennent et nous disent pour faire les soldes. Bah ok. Grand bien vous fasse. C'est pas un motif moins valable qu'un autre. Et ça veut pas dire qu'elle a des problèmes d'argent. Ça veut juste dire qu'elle a besoin de fonds. Et en fait, c'est aussi le sujet autour du prêt sur gage. C'est pas parce que tu viens au prêt sur gage que t'es dans une misère pas possible et que t'es à moins 5000 euros sur ton compte bancaire. C'est juste que t'as besoin de fonds. Et si ça se trouve, ton compte bancaire, il est à plus, mais juste t'as pas envie de taper dedans pour t'acheter une paire de chaussures ou le dernier iPhone, quoi.
Et donc, tu dirais, alors, pour revenir à la question de l'accompagnement, tu dirais qu'il y a un profil des gens qui vraiment ont un mal fou à gérer les rentrées et les sorties?
Oui, et ça va pas être sympa pour ces messieurs, mais c'est souvent des hommes. Je ne dis pas qu'ils dépensent plus que les femmes, hein, c'est vraiment deux choses différentes, mais les femmes se rendent compte beaucoup plus facilement parce qu'elles... Elles calculent plus, en tout cas, ou elles sont plus conscientes des réalités. Les hommes ont parfois plus de difficultés, certainement, à se rendre compte de la valeur des choses. Je ne sais pas comment ils sont programmés, s'ils sont programmés différemment ou si l'éducation a un rôle à jouer là-dedans. Mais on a plus de les joueurs de poker qui viennent déposer des montres pour se refaire, ce sont des joueurs, ce ne sont pas des femmes.
C'est assez classique, ça.
C'est assez classique.
Tu as le problème des gens qui tombent sur une vraie addiction, hein, qui tombent dans l'addiction au jeu, qui viennent ici.
Alors que les femmes, le côté femme frivole qui va dépenser tous ses sous justement pour faire les soldes, ou non, c'est pas la réalité. Chez nous, c'est pas la réalité, en tout cas.
T'as l'impression que les femmes ont plus la tête sur les épaules.
Oui, complètement, et savent plus où elles en sont. Alors parfois, ça ne nous empêche pas de voir des clientes ou des clients qui sont dépassés par le quotidien, dépassés par les charges qu'ils peuvent avoir, ou les accidents de la vie, hein, c'est ça aussi. Et on en a eu sur ces dernières années, justement, des gens qui ont perdu leur emploi ou perdu leur commerce. Ils ont dû vendre leur restaurant parce que leur restaurant a fermé pendant un an. Bon.
Ah oui, t'as eu tout ça, toi, à la fin de...
Ça existe, ouais. Bien entendu, mais sur la population féminine, on est quand même sur des femmes qui, encore une fois, qui projettent plus et qui, du coup, savent déjà comment et quand elles vont récupérer. Souvent, elles nous le disent. Non, mais je viendrai au mois d'août pour récupérer. D'accord.
Et elles viennent au mois d'août. Ah ouais. Peut-être qu'il y a, je me disais que peut-être chez les mecs, il y avait justement cette idée parfois d'un optimisme en quelque sorte, un peu une assurance peut-être masculine, où on pense qu'on va se refaire.
Oui, c'est ça, il va se passer un truc, miraculeusement je vais réussir à... Oui, peut-être, ouais.
Et sur le côté, que ce soit familial ou social, des gens qui toujours ont besoin de cet accompagnement, est-ce que tu vois des pistes, des lignes de fuite, des socles communs?
Non, pas du tout. Impossible de vraiment déterminer un profil type. On a une multiplicité de profils assez intéressante.
Et sur les cultures d'origine?
Pareil,
tu ne dirais pas de...
Non, je ne peux pas dire que plutôt telle typologie, pas du tout.
Est-ce que ça t'est arrivé de croiser quelqu'un que tu avais vu au boulot dans la vraie vie?
Oui.
Est-ce que la personne a un peu rougi?
Non, mais plutôt moi.
Ah ouais?
Le truc de faire ses courses et de rencontrer une cliente, oui, ça m'est arrivé quelques fois, oui. Mais c'est assez drôle de se voir dans un autre contexte. Et j'ai une cliente une fois qui m'a dit « Non, mais vous voyez, je fais des courses. »
Ah, genre, c'est bon, je suis pas...
Je lui ai dit « Oui, regardez, moi aussi, vous avez acheté quoi? Vous avez pris des tomates? » C'est pas trop la saison des tomates. Mais non, c'est assez drôle de les voir hors contexte, ouais.
Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune. Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, post-produit par Bastien Bironneau, sur une musique toujours d'Emma Bitson. Et pour que Thune continue, je crois que vous savez quoi faire. Un petit clic sur notre Insta et surtout sur notre cagnotte Tipeee, T-I-P-E-E, que vous pouvez aussi trouver via Google, pour vous abonner. Bah oui, même avec un ou quelques euros par mois. Afin que l'aventure continue en toute indépendance. Merci beaucoup, à très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.